Bonjour, ravi de vous retrouver pour le magazine du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h50 pour discuter de l'actualité ici et dans le monde avec nos invités. Bienvenue. Peut-on croire aux promesses de l'économie maritime ? C'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue lors du dernier remaniement gouvernemental. Un ministère de la mer a été créé, ou plutôt recréé. Le décret qui précise ses prérogatives parle principalement d'économie, de rayonnement et d'influence maritime. Peut-on exploiter la force de la mer sans l'abîmer ? Nous en parlerons avec nos invités aux alentours de 13h20. Pour commencer, c'était apparemment une journée fructueuse que celle d'hier pour les laboratoires Sanofi et GSK. La Commission européenne d'abord a passé commande auprès de ce duo franco-britannique de 300 millions de doses d'un potentiel vaccin contre la Covid-19. Un peu plus tôt, les États-Unis leur avaient promis plus de 2 milliards de dollars pour les 100 millions de doses promises. Mais quels sont les critères fixés par les États pour favoriser un laboratoire plutôt qu'un autre ? Dans la course au vaccin que se disputent près de 100 enseignes, de la petite start-up à la multinationale, il se trouve que Sanofi n'est pas la plus proche de la ligne d'arrivée, moins par exemple que l'américain Moderna qui annonçait en début de semaine passer en dernière phase de test. Alors comment se décident ces précommandes massives des États, les caractéristiques des vaccins, leurs conséquences sur la santé publique et leur accès à tous ? Sont-ils des critères aussi déterminants que le soutien financier accordé aux laboratoires ? Quels seront les gagnants de la course au vaccin ? Nous en parlons avec nos trois invités. Bonjour Pauline Landex.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicale. OTM. Et nous sommes en ligne depuis Genève avec deux autres invités. Antoine Flahaut, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut de Santé Publique à l'Université de Genève, merci d'être avec nous. Ainsi qu'à vous, Elle Storellet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en santé publique, ancienne responsable du programme d'accès aux médicaments de Médecins Sans Frontières. Vous avez dans vos différentes fonctions, Elle Storellet, défendu l'accès à l'innovation médicale. Et c'est à vous que j'adresse cette première question. Le laboratoire américain Moderna a donc annoncé cette semaine entrer dans la dernière phase de test d'un vaccin contre la Covid-19. Et pour rester d'abord sur un aspect scientifique, est-ce qu'on sait comment il a travaillé, avec quelle technologie, quel antigène tout simplement ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette course au vaccin où il y a beaucoup de chercheurs qui, tous en parallèle, sont en train de développer un vaccin potentiel pour contre cette maladie. Et il y a plusieurs technologies qui sont en train d'être testées, mais tout se focalise quand même sur plus ou moins le même antigène, hein, ce fameux spike protein du virus, qui reste très constant. De ce qu'on sait, donc c'est une cible bien identifiée et bien caractérisée pour développer les vaccins. Donc Moderna, eux par contre, ont choisi d'utiliser une technologie qui n'a pas encore été très très bien établie, dans le sens que c'est à partir de mRNA, du RNA messenger. Et en fait, pour le moment, on n'a pas encore un vaccin sur le marché approuvé qui est basé sur cette technologie. Il y en a plein en développement clinique ou préclinique, mais on n'a pas encore vu un vaccin efficace, bien toléré, développé et présent dans le marché. Donc, c'est très, très expérimental. Mais c'est vrai que c'est une technologie qui permet d'aller très, très vite dans le développement. Et là, on sait très bien que ça fait 6 mois qu'on a entendu parler du Covid et qu'on a la séquence de RNA du virus. Et voilà, ils sont déjà en phase 3, donc ça va très très vite.
Antoine Flahaut, il faut rappeler que Moderna a travaillé finalement comme les autres laboratoires, avec l'information génétique sur le virus que la Chine avait tout simplement postée sur Internet. Mais qu'est-ce qui peut faire, d'après vous, qu'il soit allé plus vite que les autres ?
Alors, Moderna s'est associé au NIH, qui est un peu l'INSERM nord-américain, c'est-à-dire avec une structure très 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 forte, très puissante sur le plan académique en termes de recherche publique. Et par ailleurs, comme l'a rappelé Els tout à l'heure, l'essai est déjà en phase 3. Moderna n'a pas court-circuiter les phases de développement qui sont les phases 1 et 2, puis il y a aussi la phase préclinique. La phase préclinique était très importante. Elle a montré, par exemple, que le vaccin aujourd'hui protège des singes, des primates non humains, ce qui est un très bon indicateur parce que
ils ont fait l'essai sur 8 singes, hein, c'est ça en tout.
Voilà, ils sont très proches de nous, de l'homme, et donc le fait qu'on ait des essais cliniques très prometteurs a probablement faciliter l'entrée dans les essais cliniques.
Voilà, et on s'est rendu compte sur les 8 singes que 7, je crois, après leur avoir inoculé le virus, dites-moi si je me trompe, n'avaient plus ensuite le virus dans le nez. C'est quelque chose comme ça. Je vulgarise beaucoup. Comment va être mise à l'épreuve son efficacité? Sur combien de personnes? Cette phase 3, ça veut dire quoi exactement?
Alors, les phases 3, c'est des phases de... en effet, qui cherchent l'efficacité, alors que les phases précédentes sont d'abord orientées sur la sécurité. Vous comprenez donc que dans le développement d'un vaccin, il y a des sortes d'étapes incontournables pour lesquelles on ne peut pas avoir de court-circuit, on ne peut pas accélérer le processus. Il faut véritablement attendre qu'on ait une sécurité garantie pour pouvoir ensuite essayer de faire un essai de plus grande ampleur. Souvent, ça porte sur 30 000 personnes, qui est un essai qui va permettre de regarder si, comme on l'a vu à propos de 7 sur 8 singes, est-ce que sur une grande proportion des 30 000 personnes qui vont être mises dans l'essai, on va voir une efficacité sur la prévention, le contrôle de l'infection de façon très substantielle.
Pauline Londex, en temps normal, entre guillemets, l'essai de la phase 3, il peut durer 2 ans, je crois, sauf si les autorités de santé raccourcissent les procédures. Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que jusque-là, les délais vous paraissent à peu près normaux?
Les délais sont absolument pas normaux, c'est-à-dire que pour le développement d'un vaccin, il faut en général environ une dizaine d'années. C'est vrai que là, tout semble vraiment compressé pour développer un vaccin qui puisse être mis sur le marché dans les plus brefs délais. Donc c'est vrai que tout est un petit peu compressé dans cette recherche autour du vaccin du Covid.
Le Moderna, c'est pas le laboratoire auquel on pense quand on évoque les mastodontes de l'industrie pharmaceutique, que ce soit Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, entre autres. C'est quoi Moderna? On a quelques éléments pour essayer de comprendre pourquoi eux, pour l'instant, sont les premiers à s'être manifestés comme étant très proches de la dernière phase de test.
Alors, il y a différents laboratoires qui se sont lancés dans cette course au vaccin. Et évidemment, ce qu'on peut déplorer ou fortement regretter jusqu'ici, c'est d'avoir l'impression que la recherche a vraiment lieu vraiment en ordre dispersé, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de désorganisation ou de manque de coordination au niveau international entre les différents laboratoires autour de la recherche vaccinale. Donc on a l'impression que pour arriver et mettre sur le marché un vaccin le plus vite possible, les firmes développent chacune de leur côté un petit peu les potentiels, les candidats vaccins.
C'est ça, Elstorel, chaque développeur doit travailler dans le cadre de sa technologie propriétaire sans pouvoir utiliser d'autres éléments, éventuellement meilleurs d'ailleurs, qui appartiendraient à des concurrents.
Ben, c'est ça la réalité de la manière qu'on a construit notre écosystème de la recherche et le développement des vaccins. On pourrait choisir différemment, mais la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque compagnie, chaque développeur a sa technologie propriétaire brevetée et ils investissent là-dedans pour gagner, hein, pour gagner la course. Et puis, s'ils gagnent la course, ben, ils auront un certain monopole et ça leur permet de demander le prix qu'ils veulent et puis de gagner et rembourser pas seulement la recherche, mais d'en faire des profits. Donc, on a créé un système de recherche biomédicale commercial où on met en compétition des développeurs. On aurait pu choisir, et je pense... que ce serait beaucoup plus sain pour la science de travailler beaucoup plus ensemble et de mettre les meilleurs éléments des uns et des autres ensemble, mais c'est pas comme ça qu'aujourd'hui notre système commercial fonctionne. Je voulais aussi ajouter quelque chose, vous posez la question sur pourquoi Moderna, on connaît pas Moderna, c'est une petite firme. Je pense que on parle du vaccin Moderna, mais quand on regarde le développement, pour moi c'est un vaccin NIH. C'est une très très proche collaboration, comme Antoine l'avait déjà dit, avec le NIH qui est vraiment l'institut biomédical de recherche biomédicale américain très très puissant, qui avait déjà travaillé sur cette technologie avec le messenger RNA, le mRNA, la technologie sur laquelle ce vaccin s'est basé. Et finalement, parce que c'est aussi la manière que les États-Unis fonctionnent, il y a beaucoup de recherches publiques qui, à un certain moment, doivent être transférées à des partenaires privés, commerciaux, pour finalement commercialiser le vaccin. Le NIH ne commercialise pas eux-mêmes un vaccin. Ils vont toujours chercher un partenariat. Donc, la puissance de Moderna, c'est d'avoir NIH derrière. Et par ailleurs, l'essai de phase 3, c'est l'NIH qui est quand même en train de le faire, parce que Moderna, c'est une toute petite boîte.
Une toute petite boîte créée il y a 9 ans et dirigée aujourd'hui par l'ancien patron du laboratoire Mérieux à Lyon. Pauline Landec, c'est un mouvement de fond, c'est laboratoires qui délèguent leur recherche fondamentale ou qui s'associent à d'autres structures comme ça pour avancer à deux dans la recherche de médicaments ou de vaccins.
Bien sûr, et ce qu'on voit beaucoup, et pour ajouter sur justement sur ce que Health a développé là, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'instituts publics, de recherche publique, qui investissent, qui contribuent à la recherche auprès de firmes privées. Donc il y a énormément de financements publics qui sont investis donc par le NIH en France à travers l'INSERM ou à travers d'autres organismes qui investissent auprès de ces laboratoires pharmaceutiques. Malheureusement, on peut quand même dénoncer le manque de transparence autour de ces financements et le manque de conditionnalité autour de l'octroi de ces financements. C'est-à-dire que nous, une des choses que l'on demande avec l'Observatoire en France autour de ces questions, c'est que autour des financements publics qui sont accordés, par exemple le laboratoire Sanofi reçoit au titre du crédit impôt recherche 1,5 milliard d'euros depuis une dizaine d'années. On veut que autour de ces financements publics à la recherche privée puissent être attachés des conditionnalités en termes de propriété intellectuelle, en termes d'accès, en termes de prix maximum des médicaments ou des produits de santé développés.
Donc là, pour l'instant, de ce que l'on sait, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de Moderna, mais pour reprendre Sanofi, l'exemple qu'on a invoqué en tout début d'émission, qui hier a obtenu plus de 2 milliards de dollars des États-Unis pour une précommande de doses. L'Union européenne qui réserve à Sanofi 300 millions de doses de vaccins. C'est quoi la logique déjà, puisqu'on vient de dire qu'a priori Moderna était quand même plus en avance dans cette course-là. Donc pourquoi les fonds continuent à aller vers tous les autres laboratoires? Et par ailleurs, est-ce qu'on sait s'il y a le moindre début de concessions faites par les laboratoires auprès des États? Est-ce qu'on leur demande des sortes de conditions, quoi, en échange de ces précommandes?
Alors, il faut bien comprendre que l'accord qui est intervenu hier entre la Commission européenne et Sanofi, il faut bien le replacer dans son contexte. Il intervient un mois et demi après le chantage du patron de Sanofi qui a déclaré que le vaccin serait mis prioritairement
Aux Américains.
Des Américains.
Pour vous, c'est un chantage ou est-ce que c'est juste un engagement qu'il honore auprès des États-Unis, puisque les États-Unis ont été les premiers à faire des précommandes?
Il est évident pour nous que c'est une forme de chantage, puisque l'objectif de Sanofi derrière ça, c'est d'obtenir davantage d'aide publique sans condition. C'est-à-dire là, il y a probablement des conditions qui ont été demandées par la Commission européenne, mais ces conditions-là sont toujours opaque, c'est-à-dire qu'on n'a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas autour de cet accord quelles sont les conditionnalités autour de la mise sur le marché de ce vaccin. Donc pour nous, il y a une forme de chantage qui est exercée par les laboratoires pharmaceutiques qui veulent plus d'aide. Et on pense vraiment que cette mise en concurrence entre les pays est dramatique. Parce que là, c'est la question, c'est est-ce que les Américains auront d'abord le vaccin par rapport aux Européens? Mais on oublie à chaque fois les pays du Sud, les pays en développement, qui seront les derniers approvisionnés, puisque ce seront les derniers à s'aligner sur les aides publiques des pays industrialisés.
Elle est vraiment passionnante, cette question de des aides publiques, des subventions et des éventuelles conditions imposées par les États aux laboratoires en échange de ces massives précommandes. Antoine Flau, c'est vrai que ces fonds alloués à la recherche d'un vaccin, il y en a besoin a priori pour la recherche et pour la production d'un vaccin pour toute la planète. Les opposants enfin en tout cas ceux qui sont en train de dénoncer une grande opacité comme Pauline Londex aujourd'hui et comme beaucoup d'autres, a priori ne sont pas contre le fait que des fonds soient alloués à ces laboratoires, mais comment et sous quelles conditions?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est très important de demander une très grande transparence dans l'attribution de ces fonds, ou une plus grande transparence. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 165 vaccins en développement contre ce coronavirus. C'est absolument exceptionnel. Il y en a 140 qui sont toujours en phase préclinique, dont celui de Sanofi et GSK, dont on vient de parler. Et puis, il y en a 6 qui sont en phase 3, donc assez près de la ligne d'arrivée. Alors, on peut espérer que l'on va avoir un vaccin au bout du compte, mais la prise de risque de la part des industriels est considérable. Ce sont des développements qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas de garantie de succès, y compris pour ceux qui sont en phase 3. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en phase 3 que vous allez être sur le marché, pour plein de raisons, y compris d'abord des raisons de sécurité ou de manque d'efficacité qui peuvent apparaître dans les tout derniers miles, on va dire, kilomètres avant la ligne d'arrivée. Donc le fait que des États fassent de la préemption d'achat de doses, des subventions parfois, c'est quelque chose qui est nécessaire pour donner une incitation financière et pour partager quelque part la prise de risque. Alors, il ne faut pas être naïf, si les États le font, c'est bien entendu pour sécuriser leur marché intérieur, pour leurs concitoyens. On peut aussi avoir un optimisme raisonnable quand on voit les actions qui sont menées, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé, qui a développé dès le mois d'avril une initiative qui s'appelle ACT Accelerator et qui vise à sécuriser la possibilité de l'accès à ces futurs vaccins, alors qu'ils ne sont toujours pas sur le marché. Donc c'est très très préalable, anticipateur, pour pouvoir permettre à des pays qui n'auront pas les mêmes moyens que les États-Unis ou l'Europe, ou la Chine d'ailleurs, de disposer de vaccins, en particulier pour les personnes prioritaires. Donc je pense que, je ne dis pas que tout est rose, je dis qu'on a connu de très grands succès dans un passé récent, dans la lutte contre la variole, que l'on a réussi à éradiquer, dans la lutte contre la poliomyélite, on est pratiquement au bord de son éradication. Donc évidemment, en donnant la possibilité d'accès à des pays très pauvres de la planète, à des vaccins à un coût qui est abordable, ou parfois grâce à des acteurs philanthropiques. Donc je pense qu'on peut penser qu'on aura la même stratégie pour le coronavirus lorsqu'on aura un ou des vaccins disponibles.
Voilà, l'Organisation mondiale de la santé, elle en parle évidemment de l'accès à ces vaccins pour les pays les plus pauvres. Elle propose aussi, l'OMS, que soient vaccinés en premier les travailleurs de santé, le personnel hospitalier. Mais jusqu'où pourra-t-elle l'imposer, Else Torelli?
Déjà, on sait que l'OMS peut faire beaucoup de recommandations, mais elle n'a pas beaucoup de pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien revenir sur quelque chose que notre collègue Antoine avait dit, en disant qu'il y a 6 vaccins en phase 3 et qui sont près de la ligne d'arrivée. Moi, j'aimerais bien quand même nuancer ça, parce que c'est pas parce qu'on est en phase 3 qu'on est près de la ligne d'arrivée. Phase 3, c'est la première phase où on va enfin regarder à l'efficacité. Et c'est ça qui est primordial. C'est vrai qu'il faut déjà arriver en phase 3 pour pouvoir tester l'efficacité, mais c'est pas du tout garanti. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, même sur la question fondamentale, est-ce que c'est possible d'induire une immunité qui protège contre le Covid, la question n'est pas encore résolue. Donc Je pense que c'est super qu'on a 6 candidats vaccins en phase 3, mais il est très très bien probable ou possible qu'aucun des vaccins a une efficacité robuste. Et là, je pense que le risque qui existe aujourd'hui, avec cette course en avant où vitesse, c'est le critère le plus important, où c'est vraiment qui va être le premier sur le marché, je pense qu'il y a un grand risque qu'on va diminuer ce qu'on attend, quels sont les critères de succès d'un vaccin, c'est quoi l'efficacité. C'est pas binaire, c'est pas efficace ou pas efficace, ça peut aller de 10% efficacité jusqu'à 100% efficacité. Est-ce qu'on va se contenter avec quelque chose qui seulement a 10% d'efficacité? Et les risques est aujourd'hui qu'il y a tellement de pression politique, financière et aussi populiste, si on entend le président Trump qui, pour sa propre élection, veut absolument avoir un vaccin sur le marché avant la fin de l'année. Moi, j'ai vraiment une grande crainte qu'on va on va accepter qu'un vaccin complètement médiocre, qui dans une autre condition ne serait jamais approuvé, va être mis sur le marché, et puis il y a toutes ces promesses d'achat des gens qui vont aller probablement ou potentiellement à des vaccins complètement médiocres, et on va vraiment louper l'opportunité de développer un vaccin vraiment mieux adapté aux besoins, mieux adapté aux besoins aussi du reste du monde. C'est pas seulement en Europe ou aux États-Unis dont on a besoin de vaccins. Et je pense que c'est vraiment important de regarder de proche c'est quoi efficacité.
Pauline Londex, tout simplement, est-ce qu'on mise trop sur le vaccin alors qu'on ne sait même pas à quoi ressemblera la deuxième vague et qu'on sait que le virus, comme tout virus, mute? Et toutes les questions que pose le fait qu'on ait favorisé pour l'instant la recherche sur un vaccin plutôt que sur un médicament?
Oui, il est essentiel d'avancer, bien sûr, vers le développement d'un vaccin. Ça paraît essentiel de continuer.
Il n'y a pas de question là-dessus pour vous?
Pour nous, pour moi, il n'y a pas de question sur le fait de savoir s'il faut un vaccin ou pas. En tout cas, ce qui paraît évident en revanche, c'est que c'est la concurrence entre tous les acteurs de la recherche qui fait que on se retrouve dans cette situation où, comme le disait Els à l'instant, on va peut-être mettre sur le marché et encourager des vaccins qui seront médiocres. Donc c'est là aussi la limite, je pense, d'un système de développement, de recherche et développement des produits de santé qui est privatisé, qui est privé, qui est autour de logiques d'offres et de la demande, de marché, de prix, etc. C'est pour ça qu'il faut, enfin, selon nous, selon l'Observatoire, ce qu'on pense, c'est qu'il faut sortir de ces logiques de marché. Il faut sortir les produits pharmaceutiques, les médicaments, des logiques de marché. Il faut créer, par exemple, en France, un pôle public du médicament. Il faut que ce soit qu'on sorte de ces logiques de concurrence entre les acteurs, parce qu'on se retrouve souvent avec des produits pharmaceutiques qui ne sont pas exactement ce dont les populations ont besoin en termes de santé, et c'est quand même problématique.
Antoine Flau, je me tourne vers le scientifique que vous êtes. S'il est le premier à dire j'ai trouvé le vaccin, est-ce qu'un laboratoire ensuite imposera son vaccin dans le monde entier par la suite? Est-ce que tous les autres vont aussitôt abandonner leurs recherches? Et surtout, est-ce que le fait qu'ensuite des milliers de personnes se voient inoculer ce virus-là pour lutter contre le coronavirus, est-ce que ça va en quelque sorte changer la réponse immunitaire collective et faire que tous les autres vaccins qui viendront après ne seront plus du tout efficaces parce que le virus aura changé? Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est vrai qu'il y a le côté absurde de cette course vaccin dont j'aimerais avoir les ressorts scientifiques. Est-ce qu'il y a une absurdité scientifique à ce que plusieurs laboratoires travaillent en même temps sur un même vaccin, mais un même vaccin qui, par ailleurs, n'est pas du tout le même, en fait?
Non, je ne crois pas que le fait qu'il y ait plusieurs candidats vaccins, et donc plusieurs firmes et plusieurs équipes qui travaillent sur le projet, soit quelque chose qui soit défavorable. Au contraire, on connaît ça pour la grippe. Hein. Pour la grippe, il y a plusieurs producteurs de vaccins, plusieurs développeurs de vaccins, et on espère d'ailleurs toujours, on n'a pas un vaccin, comme le disait Els tout à l'heure, les vaccins ont des efficacités qui peuvent être très très variables. Hein. Et ce n'est pas parce qu'ils sont produits récemment qu'ils sont de meilleure qualité. Le vaccin contre la grippe est plutôt un vaccin ancien et il n'est pas d'une très grande efficacité, malheureusement. En plus, chez les personnes âgées, chez qui il est particulièrement recommandé, il est plutôt moins efficace que chez les personnes plus jeunes. On risque tout à fait d'avoir ce même type de profil avec le vaccin contre le coronavirus. Et puis on a des vaccins absolument exceptionnels et qui sont assez anciens. Par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune, c'est un vaccin exceptionnel que je qualifierais d'exceptionnel en termes de sécurité et d'efficacité, parce que si vous êtes vacciné, pour toute votre vie, vous êtes protégé, je veux dire, pour toute votre vie, et vous êtes protégé de façon 100% efficace. Vous n'allez jamais faire de fièvre jaune si vous êtes vacciné, sauf évidemment si vous avez un déficit immunitaire qui est lié à une autre maladie. Mais donc, on peut avoir beaucoup de chance et avoir un vaccin qui va remporter la mise, si je puis dire, sur le plan scientifique et sur le plan clinique, médical, et qui soit 100% efficace. Et à ce moment-là, ça écrasera probablement toute la concurrence, si jamais c'est le cas. Mais ce cas de figure qui est arrivé avec le virus de la fièvre jaune et qui est un virus aussi à ARN pourrait se reproduire avec le coronavirus ou non. Et si on a plutôt des vaccins qui sont partiellement efficaces, comme par exemple pour le virus de la grippe, ou voire encore pire, comme par exemple pour le virus de la dengue, les virus de la dengue ont aujourd'hui un vaccin qui n'est pas totalement performant, mais qui n'est pas nul non plus, et qui est suffisamment intéressant pour que l'on puisse se dire, en raison de la gravité de la maladie, en particulier dans certains segments de la population, qu'il vaut mieux et que le rapport bénéfice-risque, bénéfice clinique sur risque d'effet indésirable est favorable dans un certain groupe de sujets très à risque, alors ça n'empêchera pas le développement de concurrents qui pourraient apporter une solution meilleure ou une solution pour d'autres groupes, par exemple.
Alors, Elstorellet, on a pu constater à quel point les personnes malades réagissaient différemment au coronavirus en fonction de leur âge, en fonction d'éventuelles comorbidités et autres facteurs, bien que on n'ait pas encore tellement de certitudes là-dessus. Mais est-ce qu'une fois qu'un premier laboratoire aura brandi son nouveau vaccin contre le coronavirus, est-ce qu'il pourra ensuite travailler éventuellement sur des déclinaisons de ce même vaccin à destination de publics différents?
Pardon. Oui, éventuellement, ou bien, je pense, comme Antoine l'avait indiqué, probablement on aura besoin de plusieurs vaccins qui peuvent être complémentaires dans leur dans la protection de la population. Mais pour cela, il faut de nouveau, comme Pauline l'avait dit, ça va pas avec une logique de marché. Il faut avoir une logique de santé publique où on regarde quelles sont les caractéristiques de chaque des candidats vaccins et sur quelle population ou sous-population ils auraient probablement le meilleur effet. Et c'est assez possible qu'on ne va pas avoir un vaccin qui va être bon pour tous, mais peut-être plusieurs types de vaccins qui induisent une type d'immunité qui est un peu différent et, par exemple, mieux adapté à des gens d'un certain âge ou avec d'autres comorbidités, etc. Mais donc, pour faire ça, c'est pas en avançant dans une compétition aveugle pour arriver sur le marché le premier qu'on va constituer ce portefeuille quelque part de vaccins complémentaires qui vont vraiment pouvoir avoir une réponse santé publique. Et je pense là de nouveau, les critères de succès sont hyper importants. Je regardais là sur le vaccin Moderna, j'ai pas vu le protocole d'étude, mais l'objectif primaire, c'est de voir si le vaccin, qui par ailleurs doit être donné en deux doses avec 28 jours de décalage, qui est pas tout à fait évident à faire pour une vaccination de masse, mais donc ils vont regarder si le vaccin peut diminuer le nombre de gens qui vont développer la maladie Covid symptomatique. Donc, le premier objectif n'est pas de arrêter l'infection, c'est pas la protection contre l'infection, c'est en fait regarder combien de gens développent la maladie. si j'ai éventuellement, donc le succès de cette étude est dépendant de ce premier objectif. Donc, si on arrive à réduire le nombre de gens avec la maladie symptomatique, mais sans affecter la transmission du virus, l'étude va être un succès et on peut faire un pari que les autorités réglementaires vont accepter ça pour mettre sur le marché. Mais à ce moment-là, on aura un vaccin qui ne va pas diminuer la transmission de la maladie. Donc seulement ceux qui ont été vaccinés vont bénéficier du vaccin. Et là, le virus va continuer à disséminer, à être transmis sur tous les autres. C'est pas du tout dont on a besoin.
C'est pas ce dont on a besoin. Moderna, qui a par ailleurs indiqué déjà quel tarif il imaginait pour une dose de ce vaccin, entre 50 et 60 dollars. Pauline Landex, comment, par quel calcul, un laboratoire pharmaceutique fixe le prix d'un vaccin et comment on arrive à de tels écarts entre les tarifs indiqués par Moderna et ceux, par exemple, que voudrait pratiquer le laboratoire britannique AstraZeneca, qui s'est engagé à vendre son vaccin 3 à 4 dollars, mais sans doute aussi grâce à l'aide de la puissance publique. Mais comment se fixe le prix d'un vaccin aujourd'hui ?
Eh bien, le gros problème qu'on a, c'est que les modalités de fixation des produits de santé, dont les vaccins, ne sont absolument pas transparentes, ne sont absolument pas claires, ne s'appuient pas sur des critères objectifs. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que les firmes arrivent dans une position de force quand elles mettent un produit de santé qui est très important pour une population. Elles arrivent dans une position de force puisqu'elles peuvent négocier de façon quasi unilatérale. Donc, elles peuvent imposer de façon quasi unilatérale un prix. C'est bien tout le problème. C'est bien le problème de l'absence de transparence sur les contributions publiques, parce que si vous financez, si vous êtes une institution publique et vous avez financé le développement d'un produit de santé, d'un médicament ou d'un vaccin, et qu'ensuite vous remboursez à nouveau par l'assurance maladie ou par des achats,
vous payez
plusieurs fois, c'est ça. Donc on a un problème, c'est qu'on paye plusieurs fois, c'est-à-dire que les États payent plusieurs fois pour les produits de santé.
Et ça, c'est propre au prix d'un vaccin ou c'est vraiment tous les médicaments où il y a quand même des particularités spécifiques au vaccin ?
Alors là, on parle de tous les produits de santé, dont les vaccins, puisque les vaccins, mais en tout cas, pour reprendre le prix que vous avez indiqué de Moderna, c'est un prix qui met ce vaccin, par exemple, hors d'accès pour la plupart des pays du Sud. Ce prix est vraiment, mais rend ce vaccin inaccessible pour la majorité de la population mondiale.
Et ce serait quoi le juste prix d'un vaccin alors, qui convienne et à l'entreprise pharmaceutique qui, comme disait Antoine Fléau tout à l'heure, prend des risques aussi, à un retour sur investissement très faible a priori sur un vaccin, mais aussi à l'acheteur, en l'occurrence les pouvoirs publics, dont l'objectif a priori est de faire en sorte que le vaccin soit accessible au plus grand nombre.
Le juste prix d'un produit de santé, c'est un produit de santé qui est accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est simplement ça le juste prix d'un produit de santé. Parce que les produits de santé ne sont pas des produits comme les autres, puisque des millions de vies en dépendent.
Antoine Flau.
Si je peux me permettre,
Elle
juste pour dire, parce que vous dites que les firmes prennent des risques, je pense que les États, avec les énormes investissements qui sont faits, c'est des énormes risques qu'on prend, et je dis « on » parce que l'argent des États, c'est quand même l'argent des contribuables des taxes. Donc, c'est nous tous qui payons ça, et c'est pour ça qu'il faut avoir une rééquilibration de pouvoir pour déterminer le prix, et donc le risque-prix et l'engagement financier public doit être balancé contre les investissements privés qui, bien sûr, il faut aussi les mettre en valeur, mais pas seulement le privé, et que le risque pris par le gouvernement et par les États et par nous tous soit normal, et nous, on ne doit pas avoir de retour. Notre retour comme individu, comme citoyen, c'est d'avoir accès abordable pour tout le monde, parce qu'on a déjà contribué.
Donc l'OMS là-dedans est censée jouer un rôle d'arbitre, sauf qu'elle aussi, elle a une organisation internationale récente, une union publique-privée qui s'appelle le CEPI, c'est un bailleur de fonds qui soutient certains laboratoires producteurs de vaccins. Mais sur quels critères, Antoine Flau, là aussi, on a plutôt l'impression d'une certaine opacité. Donc comment, à partir du moment où l'OMS, qui doit jouer ce rôle d'arbitre, ne peut pas le faire pour l'instant, en tout cas pas de façon transparente, comment on fait, tout simplement ?
Alors, il y a un certain nombre de mécanismes de régulation à ce niveau qui ont été mis en place au niveau international. Par exemple, vous savez, le vaccin contre le papillomavirus, hein, pour éviter pour prévenir du cancer du col chez la femme, est un vaccin qui est aussi très efficace et qui était assez cher dans nos pays et qui en fait a fait l'objet justement de négociations. Alors, dans ces négociations, tout n'est pas forcément en effet sur la table et mis de façon totalement transparente, y compris pour des raisons de concurrence entre les groupes, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des grandes campagnes de vaccination qui rendent ce vaccin abordable dans des pays où il n'aurait pas pu être abordable sinon. Peut-être aussi d'ailleurs avec l'aide de grands acteurs philanthropiques comme la Fondation Gates ou d'autres.
De la même fondation façon, d'ailleurs, Melinda et Bill Gates qu'on retrouve quand même un peu partout maintenant à chaque fois qu'il s'agit de parler des politiques de santé.
Oui, et qui sont quand même des grands contributeurs pour l'accès à ces médicaments. Et de la même façon, d'ailleurs, MSF, par exemple, Médecins Sans Frontières, ou d'autres structures, comme celle de Pauline Londay, sont des acteurs qui permettent d'avoir un peu de contre-pouvoir et d'avoir un discours qui soit un discours très exigeant sur le plan de l'éthique et de la santé publique et de l'accès, comme cela a été rappelé, l'importance et l'accès. Mais vous voyez, par exemple, une des firmes, par exemple Gilead, qui a fait un produit contre l'hépatite C, un produit excellent, hein, d'une excellente efficacité et bien toléré, et qui permet de guérir l'infection contre l'hépatite C, eh bien, c'est un produit extrêmement cher. Hein, c'était plus de 70 000 euros le traitement en Europe. Il est vendu à des prix qui sont de 100 à 500 euros pour l'ensemble du traitement, hein, dans des pays comme l'Égypte ou des pays d'Afrique subsaharienne, avec des modalités très différenciées entre les pays. Je pense qu'on va tendre vers cela pour ce vaccin pour le coronavirus. Il y a des pays et des économies qui pourront se permettre d'amortir les coûts de développement et le coût de production dont on parle, qui seront des coûts très importants pour ce vaccin, et puis d'autres qui les auront plus à prix coûtant, parce qu'en effet, le coût réel de la molécule ou du médicament ou du vaccin est généralement pas très élevé.
Pauline Landex, pour conclure, est-ce qu'on pourra produire suffisamment de vaccins pour tout le monde ?
Ben, il faut absolument qu'on puisse produire des vaccins pour tout le monde, mais simplement pour réagir sur le prix des médicaments de l'hépatite C. Si le prix des médicaments de l'hépatite C a pu être disponible dans les pays du Sud à 100 ou 500 dollars, c'est parce que des producteurs de génériques ont pu les produire. Des producteurs de génériques en l'absence de propriété intellectuelle sur ce médicament dans certains pays. Quand on regarde justement la contribution, le développement de ce médicament contre l'hépatite C, on se rend compte qu'il y a beaucoup, que le laboratoire Gilead n'a pas vraiment contribué à ce... Il y a eu une financiarisation de la recherche autour de cette molécule. Là où je veux en venir, c'est que sans transparence, le prix des médicaments va continuer d'exploser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons à nouveau un appel solennel au Premier ministre Jean Castex et à Olivier Véran. Nous avons besoin de la mise en œuvre de la transparence dans les politiques du médicament d'une façon générale. C'est la seule façon de sortir les produits de santé des logiques de marché pour que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins, notamment du Covid-19.
Voilà, et ça vaut bien sûr pour ce vaccin. Merci beaucoup, Pauline Landex, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicaments. Merci, Antoine Flau, directeur de l'Institut de Santé Publique à l'Université de Genève, ainsi qu'à vous, Else Torellet, chercheuse en santé publique à Genève également. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Dans un instant, la deuxième partie du magazine du week-end. Peut-on croire aux promesses de l'économie maritime ?
In the world of cliff notes, me and my
Mélissa Lavaux nous embarque sur son bateau My Boat et son paysage en clé de sol érodé de larmes.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
Tout navigateur au long cours le sait, on ne peut pas se battre contre la mer car on est sûr de perdre. Il faut se battre avec ou grâce à elle et accepter a priori les règles du jeu. Mer rime difficilement avec administration et pourtant elle dispose bien depuis un mois d'un ministère tout à elle dédié. C'est Annick Girardin, ex-ministre des Outre-mer, qui en a pris la barre avec pour terrain de jeu 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime quand la Chine en a 3,7, on le rappelle. De quoi, dit le gouvernement, développer encore la croissance bleue. Mais fût-elle bleue, la croissance peut-elle se faire sans détruire encore les fonds marins? Peut-on croire aux promesses de l'économie maritime? Nos invités savent à n'en pas douter qu'en mer, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Bonjour Julia Tasse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, où vous travaillez sur les conséquences géopolitiques et sécuritaires du changement climatique au sein d'un observatoire dédié. Vous êtes ici en studio avec Sylvain Roche. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Vous êtes ingénieur pour la chaire Transition écologique territoriale, TRENT, de Sciences Po Bordeaux. Bonjour François Daniel.
Bonjour.
Notre troisième invité, vous êtes doctorant en droit du travail maritime, chargé de mission au Cluster Maritime Français. C'est une association créée en 2006 pour représenter la filière maritime française dans son ensemble, et elle est vaste, notamment auprès du gouvernement. Alors d'abord, pour faire le lien avec la première partie de cette émission, je voulais vous demander tout simplement quelles conséquences le coronavirus, la crise sanitaire, ont eu sur le secteur maritime, parce qu'on en a moins parlé, Julia Tasse.
Alors, je laisserai ensuite François Daniel développer, mais le coronavirus a affecté le secteur maritime tout simplement parce que les équipages sont donc des groupes qui vivent sur le même navire, sur le même bâtiment pendant un certain temps, et il a fallu jongler avec les risques de contamination et continuer à approvisionner les différents ports français et autour du monde et à assurer les échanges maritimes internationaux.
Alors que, pour ce qui concerne en tout cas la pêche, les restaurants étaient fermés, les marchés étaient fermés, la criée aussi, donc une chute sans précédent de la consommation de poissons en France. Avec quelles conséquences donc, François Daniel?
Eh bien, il faut bien avoir à l'esprit que l'ensemble des économies nationales a subi un impact sur de cette crise sanitaire et économique. La filière maritime n'y a pas échappé, mais cette période a été un peu particulière dans le contexte de la crise. Il faut savoir que les marins ont continué à travailler, les ports ont continué à travailler, les logisticiens, les pêcheurs et j'en passe, sont autant de personnes qui ont continué à travailler pendant le confinement et leur activité a fortement subi l'impact de cette crise. Aujourd'hui, bien entendu, le fait que les restaurants soient fermés, la filière pêche s'est trouvé en difficulté pour épuiser les stocks de leur activité.
Avec pour corollaire un effondrement des prix.
Il y a
quand même un prix minimal garanti par les organisations de producteurs à leurs adhérents, notamment.
Tout à fait.
Par l'Union européenne.
Tout à fait. Mais c'est vrai que ça ne suffisait plus pour que les pêcheurs derrière puissent continuer ensuite leur activité de manière pérenne.
Donc, d'autant que je crois que le gouvernement français a choisi d'utiliser le chiffre d'affaires comme unique critère d'attribution de ces aides, ce qui n'a pas été sans poser question pour d'autres pêcheurs dont le chiffre d'affaires est moins important.
Exactement. Mais qui... Et tout cela dans un contexte que l'on connaît, celui du Brexit.
Oui, avant, on va en parler du Brexit, mais Sylvain Roche, la crise sanitaire, elle a aussi fait du bien à la mer ou pas? On a vu des populations de poissons se régénérer. Alors on a vu, sans aller jusqu'à l'Australie, où certaines baleines sont réapparues, mais ça a fait du bien ou pas?
Oui, après pour rebondir sur François, juste un chiffre.
Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu, ouais, du micro? Il est très sensible, s'il vous plaît. Merci.
Pas de problème. Non, mais juste pour rebondir sur Daniel, peut-être un chiffre. En indiquant que le transport de conteneurs a chuté de 6,4% en avril à l'échelle planétaire, qui montre bien l'impact qu'a eu cette crise sur le trafic maritime. Mais en effet, crise, c'est aussi une opportunité de changement et de bifurcation. Et en effet, on a revu dans les médias ces images d'une Venise, les lagunes de Venise propres, avec le retour de certains poissons qu'on n'avait pas vus depuis des années. Donc en effet, c'est une crise. Ça a aussi permis une régénération des milieux environnementaux qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies maintenant.
On sait d'ailleurs s'il y a certaines populations de poissons qui ont particulièrement bénéficié de ce moment-là ou pas? Non, on n'a pas encore d'études précises, en fait, des fonds marins. Bon, en tout cas, vous parliez chacun des ports. Dans un contexte de mondialisation des échanges, les ports sont des rouages essentiels. Ils ont été, vous le disiez, affectés par la crise sanitaire. Dans quelle mesure sait-on déjà s'ils vont bénéficier du plan de relance post-crise sanitaire? Et est-ce que tous vont en bénéficier ou seulement les plus gros? Qui veut répondre? François-Daniel?
Aujourd'hui, les plans de relance sont tous en cours d'élaboration. Il y a plusieurs moyens de voir la relance. On peut voir la relance à travers une relance nationale. On a vu très récemment aussi dans l'actualité une relance européenne. Bien entendu, les régions et les collectivités territoriales vont avoir un rôle à jouer dans cette relance. C'est encore difficile d'établir qui va pouvoir en bénéficier. L'objectif étant que l'ensemble de la filière maritime en bénéficie. Mais actuellement, bien entendu, c'est en cours d'élaboration.
Le plan de relance et la création des emplois de demain passeront par la mer. C'est en tout cas ce qu'a assuré Emmanuel Macron dès son discours du 14 juin, donc un mois après le déconfinement et peu de temps avant que ne soit annoncé créer un ministère de la mer. Quel intérêt, Julia Tas, de réunir en un seul ministère des questions qui touchent à la fois à l'économie, au transport, à l'alimentation, aux affaires européennes, à la défense et bien sûr à la transition écologique? Qu'est-ce qu'on en attend? Si vous deviez être reçu là par Annick Girardin, la nouvelle ministre de la mer, qu'est-ce que vous lui diriez?
Alors déjà, vous avez en partie répondu à la question puisque vous avez souligné toutes les facettes qui sont liées de près ou de loin au domaine du maritime. Et l'intérêt de ce ministère, c'est justement d'avoir une institution qui coordonne l'action gouvernementale et qui permet à la France de rayonner à l'extérieur en tant que puissance maritime. Avant la création de ce ministère, donc il y en avait déjà eu un dans les années 80, mais depuis c'était le secrétariat général de la mer et parfois des secrétaires d'État qui s'occupaient de la coordination interministérielle, puisque la pêche va relever du domaine du ministère de l'Agriculture, la défense va avoir une partie aussi des prérogatives liées à l'action de l'État en mer, etc. Donc tout ça c'était un peu fragmenté, dispersé, et l'intérêt de ce ministère c'est de jouer les chefs d'orchestre, entre guillemets, et d'être là pour faire en sorte que tous ces acteurs qui se connaissent, évidemment, qui travaillent sur le même espace, se coordonnent vraiment de façon très efficace au niveau français, qu'il y ait une cohérence au niveau français, au niveau européen, et ensuite pouvoir afficher cette puissance au niveau international.
C'est vrai que vous parlez de puissance maritime et l'article premier du décret qui définit les attributions de ce ministère de la mer parle d'économie maritime, de rayonnement et d'influence maritime. Mais ça sert à quoi d'être une puissance maritime ? Alors oui, alors peut-être à vous cette fois-ci Sylvain Roche et puis François Daniel, ça sera à vous après.
Oui, non, mais je dirais que ce ministère, c'est une incarnation d'une technopolitique qui est celui du rayonnement national, voire même d'un rayonnement post-colonial. Comme vous le disiez, le dernier ministère de la mer date de 91. À la suite de ce ministère, c'était des secrétaires d'État.
D'ailleurs, on lui doit quoi à ce ministère de la mer qui s'est terminé en 91? Qu'est-ce qu'il a réalisé, puisqu'apparemment on dit aujourd'hui que c'était une nécessité de regrouper tout le monde au sein d'un même ministère. Donc est-ce que ça veut dire que ce ministère de la mer dans les années 80 a plutôt bien fonctionné ou pas?
Je dirais surtout que le monde a changé depuis 91. Le monde a changé déjà parce qu'il y a eu le Grenelle de la mer en 2009, qui a mis autour de la table des acteurs de tous les horizons, que ce soit le secteur associatif, le monde de la recherche et le monde économique. Et c'est surtout, il y a de nouveaux problématiques émergentes, de nouvelles problématiques émergentes qui n'étaient pas présentes en 91. Notamment les énergies marines, le développement de l'éolien en mer qui n'était pas présent en 91. Donc les controverses ont augmenté. Les conflits d'usage ont augmenté entre des activités traditionnelles et des activités émergentes qui nécessitent à l'heure d'aujourd'hui une structure qui puisse piloter l'ensemble de ces nouveaux défis et qui puisse y répondre.
Et néanmoins, vous disiez au début de votre propos qu'on était dans une sorte de résurgence presque néocoloniale. Pourquoi ?
Pas néocolonial, mais je dirais que c'est clairement indiqué dans les discours. Quand je parlais de réincarnation d'une technopolitique qui est celle du rayonnement national, il est indiqué la stratégie géographique d'influence de la France sur les océans. Donc on est bien sur des enjeux aussi géopolitiques. Alors certainement, ma collègue va pouvoir rebondir. Mais on est vraiment, voilà, on s'inscrit dans un héritage. On refait appel à des héros nationaux mythologisés, Colbert, Richelieu, De Gaulle qui était très présent ces dernières semaines, ces derniers mois, dans la bouche même du président Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi du président et de son premier ministre de s'inscrire aussi dans cette dynamique et dans cette grande histoire nationale.
C'est vrai, François Daniel, que la France est très fière de son espace maritime, 11 millions de kilomètres carrés. On l'a dit tout à l'heure, seconde puissance maritime mondiale, mais ça sert à quoi d'être une puissance maritime?
Alors, seconde puissance maritime mondiale, c'est en tout cas le plus grand territoire.
L'espace, pardon.
Le plus grand espace maritime. Il faut savoir que ce ministère de la mer, il voit le jour assez logiquement, puisque dès la prise de fonction, de ses fonctions d'Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, il a, lors des assises de l'économie de la mer en 2017, annoncé déjà la volonté d'appuyer, de renforcer une véritable stratégie nationale maritime. Ça a été ensuite très rapidement suivi par Emmanuel Macron, qui a reçu l'ensemble des acteurs du maritime au cours de l'année 2018, et puis ensuite lors de son discours, lors des assises de la mer également. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est un affichage très fort politique que de remettre à nouveau un ministère de la mer pour affirmer une puissance maritime, bien entendu, pour affirmer ensuite et mettre en place des stratégies maritimes. Si je me retrouvais face à Annick Girardin, la ministre, je pourrais lui demander peut-être d'affirmer le véritable caractère stratégique de l'économie maritime, notamment des secteurs clés. On les a cités précédemment, hein. C'est dans tout ce qui est en termes de sécurité des approvisionnements, à la fois en métropole mais également en outre-mer, de maîtrise des flux commerciaux, de la cybersécurité, de la sécurité des communications, de l'énergie, de l'alimentation de la population, de recherche et d'exploration des fonds marins. Et tout cela, ça peut se mettre en place avec justement une stratégie nationale portuaire qui soit réellement établie, et puis une stratégie nationale de flotte marchande.
Donc c'est aussi de l'aménagement du territoire. Mais alors, en préparant cette émission, j'ai trouvé des chiffres sur le nombre d'emplois ou sur la croissance générée par le secteur maritime, totalement différents d'une source à l'autre. Quand on parle de croissance bleue des emplois dans le secteur marin, qu'est-ce qu'on mesure, Juliette Asse, exactement?
Alors ça va, oui, vous le soulignez, ça dépend. Déjà, il n'y a pas forcément la même définition de l'économie bleue et de la croissance bleue. Il y a certaines définitions qui se cantonnent, entre guillemets, au domaine maritime ou au secteur maritime primaire, donc ça va être les pêcheurs ou secteur maritime d'usagers de la mer directement, donc les pêcheurs, les armateurs, les chantiers, etc. Il y a un secteur maritime qui va être un peu étendu, qui va prendre en compte les assurances du maritime, les banques, donc c'est encore un autre secteur. Et après, il y a une définition de l'économie bleue qui intrinsèquement intégrerait le développement durable. Et là, c'est encore autre chose. Donc, en fonction de ces définitions-là, vous allez évidemment avoir des chiffres différents sur les emplois, le futur de ces emplois. Est-ce qu'on prend en compte les énergies de la mer ou pas? C'est une vraie question. Et ça montre aussi qu'il y a besoin d'avoir une cohérence au niveau national et au niveau européen sur ces sujets-là, et que c'est pas encore le cas. Et j'espère que ce sera un des chantiers du ministère.
Emmanuel Macron, il parle donc des emplois maritimes comme des emplois de demain dans un autre registre. Jean-Luc Mélenchon, dans son programme présidentiel, avait un plan mer qui devait créer 300 000 emplois. Sylvain Roche, quand on parle d'emplois de demain dans le secteur maritime, on parle de quels emplois ?
Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, il y a énormément de filières qui sont liées à l'économie durable de la mer. Je pense bien sûr aux énergies marines, mais aussi à l'aquaculture. On pourrait penser aussi au transport et tout ce qui ramène aux nouvelles mobilités. C'est très intéressant de voir aussi comment le transport maritime doit être inscrit dans une vision systémique, et comment concilier le ferroviaire, le routier et aussi le maritime dans une trajectoire de développement durable.
On parlait du fret ferroviaire dans l'émission il y a quelques temps, mais le fret maritime est tout aussi en souffrance depuis quelques temps.
Bien sûr, c'est là...
Maritime et fluvial.
Exactement, et là on peut se féliciter notamment de la création d'un comité ministériel pour le développement et l'innovation dans les transports, qui vise vraiment à concilier le transport aérien, ferroviaire et routier et maritime dans une perspective de multimodalité.
Et quand vous parliez des énergies marines, vous parliez forcément de l'éolien en mer ou pas seulement ?
Non,
parce qu'on n'est pas très en avance, la France n'est pas très en avance là-dedans ?
Non, la France est même très en retard, très très en retard lorsqu'on voit les objectifs européens et lorsqu'on examine nos voisins étrangers, notamment dans la mer du Nord, notamment britannique.
On n'a pas les mêmes fonds marins, d'ailleurs nous on plonge très vite dans les abysses, donc pour poser des éoliennes c'est un petit peu
compliqué.
Oui,
mais ça serait trop simple. C'est un facteur, c'est pour moi, c'est pas le facteur qui explique cette situation. Non, c'est la filière énergie marine est une filière multitechnologique. Donc, il y a des technologies qui sont désormais matures et bien maîtrisées. Je pense notamment à l'éolien offshore posé. Il y a des technologies qui sont beaucoup plus émergentes et en cours de développement, notamment à fort potentiel économique et marchand, comme l'éolien flottant. Donc là, on peut se féliciter aussi du lancement d'un débat public concernant le développement d'un parc flottant en Sud-Bretagne. C'est un débat qui a été lancé ces derniers jours. Mais il y a aussi d'autres filières beaucoup plus innovantes comme l'hydrolien à la fois fluvial et marin, mais aussi l'énergie des vagues, l'énergie holomotrice, l'énergie thermique des mers, les gradients de salinité. Donc toutes ces énergies sont dans des dynamiques très différentes, dans des maturités très différentes, et dans des stades de développement très différents à la fois en France et à l'international.
D'ailleurs, François Daniel, les premiers appels d'offres pour l'éolien en mer ont été lancés, je crois, en 2011. Ils devaient déjà à l'époque structurer une filière. Or, pour l'instant, notamment les deux gros fabricants de turbines français ont été vendus à des multinationales étrangères. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une filière industrielle maritime française ?
Oui, tout à fait. Effectivement, la France a pris du retard, comme le disait Sylvain. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en féliciter proprement parler. Par contre, justement, cette crise, et on se demandait ce que ça pouvait apporter à l'économie, et en particulier à la filière maritime, le développement justement de ces filières qui, aujourd'hui, en France, sont presque émergentes, alors que dans d'autres pays européens ou internationaux, c'est déjà bien en place. C'est peut-être le moment, justement, d'aller pousser pour que ces secteurs puissent se développer avec une visibilité à 2050 dans un premier temps, et puis une visibilité plus établie et plus fixe.
D'ailleurs, ces nouvelles activités écologiques maritimes, elles sont définies, elles sont en tout cas présentées comme des solutions de sortie de crise économique. Est-ce que c'est un bon calcul d'après vous, Sylvain Roche ?
Mais lorsqu'on est dans les, enfin, dans les projections en termes de création d'emplois, je dirais oui. Que ce soit les projections de l'Union européenne et de la France, je dirais que oui. Après, on est quand même dans des promesses. On est dans des promesses, il y a quand même beaucoup d'incertitudes parce que le développement de ces activités sont aussi liées à la santé des océans. Donc comment va évoluer la santé des océans? Les économistes disent que le monde sera forcément différent dans les prochaines années, mais on ne sait pas à quoi il va réellement ressembler. Donc je dirais oui. Après, juste pour rebondir sur peut-être sur les énergies marines, quelques chiffres qui me semblent assez intéressants, notamment en termes de projection en Europe et en France. Il faut savoir que l'objectif de l'Union européenne, c'est viser plus de, enfin, c'est viser. Attendez, est-ce que je me trompe pas? Oui, deux.
Non. Vous êtes perdus dans vos chiffres.
Oui,
vous
oui, oui,
avec
oui.
Un sacré paquet de. Je crois que vous tous, vous êtes. Parce que c'est ça. Voilà, la mer, ça génère quand même beaucoup, beaucoup de chiffres, et on en parle moins de façon quand même aussi un petit peu poétique. Pendant que vous recherchez vos chiffres, oui, allez-y.
Oui, non, parce que excusez-moi. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Union européenne, il y a pratiquement 230 gigawatts d'éolien en mer. En France, on n'a toujours pas d'éoliennes en mer. Ce qui fait 5000 éoliennes installées au jour actuellement en Europe.
Mais d'ailleurs, entre parenthèses, mais on n'en fait pas un débat sur l'éolien offshore, oui. Mais est-ce que c'est la panacée, sachant que, par exemple, pour prendre un parc, entre autres, celui qui il devait sortir de mer en 2019, c'est toujours pas le cas, mais celui qui est au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu, on sait combien, et ça c'est la déclaration d'utilité publique, je crois qu'il a vraiment fait savoir que cette énergie qui sera créée ne desservira pas localement les îles, etc., qu'il va y avoir beaucoup de déperdition. Est-ce que finalement, l'éolien offshore est une activité écologique telle qu'on en rêve et telle qu'on la veut?
À l'heure d'aujourd'hui, technologiquement, c'est l'énergie renouvelable qui produit le plus en énergie décarbonée.
Quand il y a du vent.
Quand il y a du vent, mais je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on voit les Britanniques qui sont actuellement en train de réfléchir à des parcs de plus de 2 gigawatts, à l'heure d'aujourd'hui, l'éolien en mer, c'est l'énergie qui produit le plus, qui est décarboné et qui est totalement compétitif du point de vue économique face aux énergies fossiles, au nucléaire et maintenant aux autres énergies renouvelables comme le solaire. Donc je vous dirais que oui. Après, on est encore une fois dans des systèmes techniques centralisés, je vous l'accorde, très, très productifs. On n'y répond pas forcément à des objectifs de décentralisation tels que peut, pour le coup, avoir d'autres technologies comme l'hydrolien ou l'énergie des vagues. Ça, je vous...
Et est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur les conséquences, l'effet de ces éoliennes dans les fonds marins, notamment sur les courants, pour poser une éolienne au fond des abysses, il faut quand même creuser pas mal. Voilà, est-ce qu'on a déjà un petit peu de recul là-dessus? Parce que l'objectif de cette discussion, c'est aussi de se demander si on peut croire en la croissance bleue, mais sans abîmer une ressource, c'est le serpent qui se mord la queue, une ressource dont on a besoin pour cette croissance bleue, etc.
Je vous dirais oui, sachant que le premier parc éolien au monde a été inauguré en 1991. Donc il y a des parcs qui sont déjà en fin de vie, qui sont démantelés. Donc je vous dirais oui, on a un retour sur l'impact que peut avoir l'éolien en mer sur le milieu à la fois marin, sur les oiseaux. Il existe. Après, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir une vision territorialisée de chaque parc. Chaque projet est vraiment spécifique, donc nécessite des études spécifiques.
Juliette, est-ce que c'est pour augmenter l'activité, l'exploitation de la mer et des espaces sous-marins que la France a demandé à l'ONU une extension de son espace maritime, extension qui a d'ailleurs été accordée, c'était le 10 juin dernier, par les Nations Unies à hauteur de quelques 150 000 km² supplémentaires? Où et pour faire quoi?
Alors ça paraît très impressionnant comme ça, comme chiffre. Oui, donc il y a un système, une gouvernance internationale de l'océan qui permet de répartir entre les pays des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux, qui nous permettent en tant que pays d'avoir un contrôle sur les activités qui ont lieu dans ces espaces. L'extension du domaine marin de la France, donc cette demande d'extension à une agence de l'ONU qui gère les fonds marins, elle date d'il y a assez longtemps, elle a été effectivement traitée et approuvée il y a peu. Elle pourrait permettre, et ça je vais laisser François, Daniel compléter mon propos, d'avoir plus d'activités économiques.
Mais donc c'est pas aussi seulement pour les protéger.
Alors ça peut être pour les protéger, ça peut évidemment, il peut y avoir un intérêt économique, il y a aussi un intérêt géopolitique qui est celui d'ajouter des mètres carrés, puisque vous venez de le mentionner, à la puissance maritime ou à l'espace maritime français.
C'est de l'affichage.
Alors, je dirais pas que c'est de l'affichage. C'est déjà montrer ou souligner le fait qu'on a cet espace maritime important. C'est aussi, en termes de stratégie de défense et de géopolitique, un élément important d'avoir cette extension. On va pouvoir faire de la recherche, et ça aussi, c'est important. Surtout qu'il y a une partie de... Donc cette extension, elle a lieu dans les terres australes et antarctiques françaises, donc qui sont près de l'île de la Réunion et près de l'Antarctique. Et c'est des zones avec des espèces qui sont parfois, donc comme la légine, qui peuvent coûter très cher. Donc ça va nous permettre à la fois de protéger ces espèces-là et de faire plus de recherches. Moi, je le vois comme ça. Après, je suis sûre que le ministère des Armées a un point de vue différent et que le cluster maritime français également.
François Daniel, puisque c'est vous qui le représentez.
Un point de vue différent. À dire vrai, aujourd'hui, effectivement, l'extension de cette zone permet les activités économiques.
Mais lesquelles, par exemple? Est-ce que la France participe à l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou pas en mer?
De ses ressources, des ressources des fonds marins. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. La première chose qu'il faut faire, c'est de la recherche, c'est de l'exploration, pour, en fonction de ces résultats, déterminer si oui ou non on peut exploiter, et cela de manière durable.
Et c'est quoi exploiter de manière durable, par exemple, le pétrole et le gaz naturel en mer?
Alors, le pétrole aujourd'hui en France, c'est interdit, hein, on ne peut pas le faire. Par contre, d'autres minéraux, par exemple, eh bien, ça serait une éventualité, mais qui n'est aujourd'hui, je le répète, absolument pas à l'ordre du jour tant que nous n'avons pas exploré ces fonds marins.
Julia Tasse.
Et pour rebondir sur le ministère de la mer, au sein du décret, je souligne le fait que parmi les prérogatives de ce ministère, il y a la gestion ou le fait d'avoir des droits d'exploration et d'exploitation liés aux minéraux sous-marins. Et donc c'est assez stratégique comme enjeu, puisque pour faire des éoliennes, il faut des minéraux, il faut des composants techniques, et qu'il y en a une partie qui vont pouvoir provenir de fonds sous-marins.
Alors on a vu dans certains cas, parfois, l'incapacité des pouvoirs publics, des institutions à s'imposer sur les questions maritimes, que quand il s'agit de protéger la mer, que ce soit pour les quotas de pêche qui ne sont pas toujours très contraignants, que ce soit pour les activités d'extraction qui ne sont pas toujours très encadrées, notamment par le droit international, est-ce qu'un ministère de la mer peut assurer ce rôle-là au plus fin, au plus près de la mer, Sylvain Roche?
Je dirais oui, mais tout dépend les objectifs et aussi l'enveloppe. Enfin, quelle va être l'enveloppe de ce ministère de la mer dans les prochaines années? On attend de voir. Il faut voir aussi comment, encore une fois, j'insiste beaucoup sur la méthode de travail. Ce ministère de la mer, c'est beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi des questionnements. Il ne faut pas que ce ministère de la mer soit une forme de ghettoisation, reprenant l'expression d'un collègue et ami de la mer, et qu'il puisse réussir à mettre autour d'une table vraiment le milieu associatif, le monde économique, le monde de la recherche, le monde de l'innovation. Finalement, ce qu'avait fait Monsieur Jean-Louis Borloo en 2009 lors du Grenelle de la mer.
Et que vous ferez sans doute tous les trois autour de cette table auprès de ce nouveau ministère de la mer. Donc Julia Tasse, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS. Sylvain Roche, vous êtes docteur en sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Et François Daniel, chargé de mission au cluster maritime français. Donc vous avez peut-être l'oreille d'Annick Girardin, la nouvelle ministre de la mer. On verra ce qu'elle fait de ce nouveau mandat dans les semaines qui viennent. Merci à vous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, Léo Grillet, Aliette Ovine et Lucas Lazo, réalisée par Guillaume Baldi. À la prise de son, c'était Adèle Caglar. Merci d'avoir été avec nous.